Je vous propose de commencer ce matin un cycle de prédications, quelques prédications sur la question de l'Église. Quel est son fondement, quelle est son identité, son modèle, sa vocation et aussi ses combats? Pourquoi sommes-nous là, au fond, ce matin? Et pour ce faire, j'ai choisi de méditer avec vous quelques passages du début du livre des Actes qui raconte les premiers pas de l'Église primitive. Si je propose cela, c'est sans doute en lien aussi avec une décision importante que nous venons de prendre, de construire un logement pour un presbytère, comme on dit. D'ailleurs, au-delà des questions très pratiques, très utiles de loger les familles pastorales qui viendront ici dans les années à venir, je crois que cette décision déclenche quelque chose. Qu'elle met l'Église en ordre de marche. Tout à coup, la voici mobilisée. Et en même temps, peut-être, se poser la question du pourquoi sommes-nous là? Quelle est notre mission? Et qu'en est-il de notre réponse à l'appel des Écritures à rayonner ensemble de la foi en Christ? Vous voyez, c'est des grandes questions que j'aimerais suivre pendant ces quelques dimanches. Avant de lire un premier récit dans le livre des Actes, j'aimerais faire quelques remarques un peu introductives à propos du livre des Actes, dans lequel nous allons voyager quelques dimanches. Tout d'abord, vous savez peut-être qu'il est attribué à un dénommé Luc, bien qu'aucune signature dans le texte de l'Évangile et dans le livre des Actes, qui ne forme qu'un, un tout, ne confirme cet auteur, ce nom d'auteur. C'est en fait une tradition du IIe siècle qui va attribuer à Luc, qu'on repère comme le compagnon de Paul, puisqu'il y a un Lucas qui est bien compagnon de Paul dans le livre des Actes, on attribuera à ce nom-là, à cet auteur-là. Mais en réalité, il n'y a aucune preuve de cela. Luc, appelons-le ainsi, puisque c'est la tradition qui en décide, est historien, il est aussi théologien. Il a réalisé ce gros pavé, Évangile-Acte, en deux volumes, qui forment d'ailleurs un tout au départ, hein, c'est la tradition qui a mis d'un côté, qui a rangé ensemble les évangiles et puis le livre des Actes après. Donc qui forment un tout, un gros tout, puisque ça fait à peu près un quart hein, du Nouveau Testament, juste son œuvre à lui. Il a écrit son œuvre avec pas mal de recul, peut-être 50 ans après les faits qu'il évoque. C'est lui qui le sous-entend en décrivant un petit peu la manière dont il a travaillé, la chaîne de transmission. Partant, il le dit au début de l'évangile, des témoins oculaires, donc qui ont vu Jésus, passant par les serviteurs de la parole, donc là il y a toute la phase de prédication, d'annonce de l'évangile, jusqu'à lui, il dit qu'il a mis un peu d'ordre, qu'il a mis de l'ordre dans tout ça, dans toute cette matière évangélique, et tout cela prend du temps. Et il présente son œuvre comme une sorte, et c'est lui qui le dit, un récit des origines. C'est-à-dire un récit qui va chercher à poser des fondements pour la foi de l'Église. Alors, son texte, Évangile, Actes, a l'allure d'un carnet de voyage, hein, d'un reportage, un docu, comme on dit aujourd'hui. Mais en réalité, il est beaucoup plus que cela. Luc ne raconte pas pour raconter. Il raconte pour faire comprendre. Il écrit un récit fondateur, un peu comme le récit de la création en Genèse 1, où chaque mot ouvre un horizon de sens, un horizon théologique. L'œuvre de Luc est donc centrée sur les origines de la foi chrétienne et aussi sur la question du témoignage de l'Église. son intention est de permettre au lecteur de faire le pas de la foi en Jésus et dans un deuxième temps de devenir témoin du Christ. Vous savez, on peut faire de la théologie de bien des manières. On peut écrire des traités compliqués où il faut s'accrocher, comme certaines lettres de Paul d'ailleurs. Mais on peut aussi faire de la théologie en racontant un récit, en fabriquant un récit. C'est ce que fait Luc dans son œuvre. On va maintenant lire un récit qui se trouve au chapitre 4, à cheval sur le chapitre 4 et 5 du livre des Actes. Il y a d'abord eu l'ascension, hein, souvenez-vous, du Christ, puis l'événement de la Pentecôte, la descente de l'Esprit, les premières prédications de Pierre, des apôtres, Étienne, et maintenant, la première communauté est lancée, elle est constituée, elle commence à s'organiser. À la lecture de ce récit, la première question qui me vient, c'est la suivante. Notre Église doit-elle tendre vers un idéal? Et si oui, lequel? Vous l'avez remarqué, le récit central, c'est cette terrible affaire. Ananias et Saphira. Récit qui est très éloigné de l'idéal chrétien. Il y a de la dissimulation, il y a du mensonge, il y a de la condamnation. Il y a surtout deux morts brutales. C'est le tout premier miracle réalisé intramuros, dans les murs de l'Église. C'est terrifiant. Mais vous l'avez sûrement repéré aussi, cette terrible narration de la mort subite d'Ananias et de sa femme Saphira est encadré par deux récits courts, par deux paragraphes, qui nous dépeignent le visage d'une Église idéale. Juste avant et juste après, le récit de Ananias et Saphira. La multitude des croyants n'a qu'un seul cœur, une seule âme, on partage tout, il n'y a plus de propriété privée. Il n'y a plus de pauvres dans l'Église. La grâce est à l'œuvre des miracles comme s'il en pleuvait. Tous les malades sont guéris. Tous, insiste Luc. Il suffit que l'ombre de Pierre passe sur un malade pour que la guérison soit donnée. Même Jésus n'a pas fait aussi fort. L'Évangile est prêché. Et il y a des milliers de conversions, même les juifs de Jérusalem, les habitants, saluent la grandeur spirituelle de l'Église. C'est l'Église idéale, dont la marque principale est l'unanimité parfaite, absolue, et la puissance illimitée. Pourquoi Luc met-il en scène cette Église idéale? Pourquoi ce refrain de l'Église parfaite rythme-t-il comme ça, comme un fil rouge? Les cinq premiers chapitres du livre des Actes. Et puis après, plus rien. On n'entendra plus ce « tous d'un seul cœur, d'une seule âme » et tous ces miracles. Quasiment plus. Il y a eu peut-être une explication à cela. Outre que le fait que Luc soit un narrateur enthousiaste et positif, qui aime regarder ce qui va bien. Il crée probablement ici ce que j'appellerais un effet narratif en clair-obscur, un peu comme dans la peinture de Rembrandt et du Caravage, si vous connaissez, si vous aimez, le clair-obscur. Luc met en scène d'un côté un récit intensément sombre, Ananias et Saphira, et de l'autre un récit intensément lumineux, celui de l'Église idéale. Comme s'il forçait volontairement le trait dans son récit. avec cet effet de contraste dans la narration, ce qu'il veut mettre en lumière, c'est ce que je vais appeler maintenant le péché originel de l'Église. Je m'explique. Regardons ce que reprochent les apôtres, Pierre, à Ananias et Saphira. On leur reproche quoi ? D'avoir un cœur divisé, de dissimuler ce qu'ils font au lieu de l'assumer, de vivre dans le mensonge et pas dans la vérité, dans le but de se mettre en avant et de passer pour ce qu'ils ne sont pas, de jouer dans l'Église les super chrétiens. Ils auraient pu tout garder, on ne leur demandait rien. En cela, Ananias et Saphira sont un peu les Adam et Ève de l'Église. Regardez, c'est un couple. Leur histoire est racontée un petit peu hors de tout repère historique. On ne sait pas trop d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font là. Ils sont un peu hors du temps, Ananias et Saphira, et donc un petit peu de tous les temps. Comme Adam et Ève, tentés par le serpent, ils sont remplis par le Satan. Comme Adam et Ève, c'est à l'Esprit du Seigneur qu'ils mentent, et non pas aux apôtres. Comme le premier couple est expulsé du jardin, Ananias et Saphira sont expirent, le dernier souffle, quittent la communauté en expirant, expulsion, expiration. Comme Adam et Ève, qui ont été séduits par l'idée de devenir comme des dieux, Ananias et Saphira ont été séduits par l'idée d'être identifiés comme des croyants parfaitement consacrés à Dieu, comme le couple chrétien idéal. C'était leur rêve, jusqu'au prix du mensonge. Ananias et Saphira, c'est une parabole de l'Église, quand elle cherche à se donner sa propre consistance, quand elle cherche à se rendre crédible, intéressante, fréquentable aux yeux du monde, quand elle cherche à séduire, à briller, à exister par ses propres œuvres, ses performances spirituelles ou sociales, peu importe. Et Luc n'est pas dupe de cela. Il met en scène très volontairement une Église idéale pour mieux démontrer qu'en réalité, elle est très éloignée de cet idéal. Luc met en place cet effet narratif en clair-obscur pour que nous nous interrogions, sœurs et frères, sur ce qui fait réellement notre identité chrétienne, sur ce qui est au fondement de notre Église, ce qui est vraiment au cœur de notre foi. Et nous pouvons maintenant revenir à la question posée en introduction. Devons-nous devenir l'Église idéale ? Devons-nous chercher à ressembler à cette Église modèle décrite par Luc au début du livre des Actes ? Eh bien, à cette question, deux grandes réponses, sans doute plus que cela, mais ont été données dans l'histoire. C'est intéressant de les rappeler. La première réponse, celle qu'on peut appeler la réponse de la prolongation. L'Église primitive est la norme, le modèle à reproduire à la lettre. Jésus a fixé la feuille de route à l'Église, sa mission, une fois pour toutes. L'Église doit s'y tenir et la prolonger à l'identique dans le temps et jusqu'à son retour. Alors, l'Église orthodoxe et dans une moindre mesure l'Église catholique s'inscrivent dans cet idéal de prolongation par la transmission du sacerdoce, etc. La prolongation du modèle originel. Certaines communautés évangéliques, en idéalisant l'Église des premiers temps, s'approprient aussi cette manière de comprendre l'Église. Et quand l'Église se perd en route, dans le péché, dans la division, dans le sommeil, que sais-je encore, alors on prêche un retour aux sources en se référant au modèle original et modèle idéal de l'Église primitive. On dit « revenons à ce que nous n'aurions jamais dû cesser d'être ». Il y a une seconde réponse, après la réponse du modèle de prolongation. Il y a une deuxième réponse à la question « devons-nous devenir l'Église idéale ?» C'est celle, non pas de la prolongation, mais de l'adaptation. L'Église a pour vocation de vivre dans son temps. C'est là qu'elle doit découvrir les enjeux et la nouveauté de sa mission, de ses combats. Pas en reproduisant, mais en inventant. C'est là, dans l'époque où elle se trouve, que l'Église doit découvrir sa manière d'être fidèle, la forme qu'elle va prendre, d'être fidèle à la parole vivante du Christ. C'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire. Par exemple, au moment de la Réforme, au moment des grands réveils du 18e, du 19e. Les réformateurs du 16e siècle s'intéressaient pas tellement à l'Église. Ils s'intéressaient à la foi et à la vie chrétienne nourrie et vivifiée par les Écritures seules. Vous voyez ? C'était ça leur truc. Et sans même s'en rendre compte, ils ont réformé l'Église. Mais ce n'était pas leur but premier. La réforme est une adaptation de l'Église, du Christ, à l'époque bouillonnante qui était la sienne, la Renaissance. Alors vers quel modèle devons-nous tendre ? Je répète à nouveau ma question. Et on a tout à fait le droit de se sentir plus proche d'un modèle ou d'un autre, et encore peut-être d'autres modèles que je n'ai pas évoqués ici, auxquels vous pensez. Mais vous l'avez senti, je me sens quand même un peu proche, en affinité de réponse avec les églises de la Réforme. En tout cas, notre idéal d'église se trouve, je le crois, dans notre capacité à nous adapter au temps qui est le nôtre. Pas pour lui obéir, attention, surtout pas. Mais pour y apporter une parole qui fait sens, une parole qui parle. Celle du Christ vivant, dans le langage de nos contemporains. D'abord parce que le Nouveau Testament ne donne aucun modèle clair et unique de cette Église idéale. Je prends l'exemple du baptême. Il n'existe aucun mode d'emploi indiscutable, on va dire, dans le Nouveau Testament. On s'adapte donc en fonction de nos lectures, de notre compréhension du texte et puis de nos traditions, que sais-je. Et pour les ministères dans l'Église, c'est pareil, les services idem, on discute, on débat, on se fâche quelquefois, et chacun finit par trouver une formule adaptée aux besoins, aux réalités, à sa compréhension de la Bible. Au fond, je pense que l'Évangile n'est pas un idéal. Ça, c'est très important pour moi. Un idéal, qu'est-ce que c'est ? C'est un horizon inatteignable, inaccessible. Alors qu'il y a des vertus, certes, l'idéal oriente, l'idéal met en route. Oui, mais l'idéal nous dépasse toujours. Et cette impossibilité d'atteindre, de saisir l'idéal, va finir par engendrer de la frustration, de la culpabilité. Finalement, nous ne sommes jamais à la hauteur de l'idéal poursuivi. Nous n'arrivons jamais à la cheville de l'Église parfaite de Luc, du sermon sur la montagne que nous avons lu ce matin, que nous avons reçu, entendu. Et on finit par désespérer. Et on finit par abandonner la foi. Eh bien, ce n'est pas un idéal, l'Évangile. Ce n'est pas ce que le Christ a voulu pour nous. Au contraire, il nous invite à sa suite. Il n'est pas quelque part là-bas ou là-haut, dans un lointain espace de pureté. Non. Il marche avec nous au creux des réalités les plus simples, les plus éprouvantes, les plus belles de la vie, les plus sombres. C'est là qu'il nous faut apprendre à discerner sa présence, entendre son appel et faire église avec lui pour le témoignage dans ce monde. L'évangile est une bonne nouvelle, sœurs et frères, chers amis. Une bonne nouvelle pour que notre monde puisse connaître la paix, la joie du salut. Une bonne nouvelle pour l'Église. C'est celle d'un Dieu qui nous rejoint là où nous sommes, dans le temps qui est le nôtre, qui nous pardonne et qui fait route avec nous. L'Église est ainsi appelée à faire l'expérience d'une, comme le Christ, d'une résurrection. À chaque époque et aujourd'hui plus que jamais, en confessant notre foi en Christ, nous disons un non catégorique à la désillusion, à la culpabilité, au mal et à l'ennui. Croyons-nous cela. Amen.